Je te remercie pour ce matin, ce temps de culte que tous ensemble nous pouvons avoir pour te mettre à la première place, te rendre un culte, Seigneur, te louer, te glorifier, examiner ta parole, tant de choses qui font du bien à notre âme. Je te remercie, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais ce matin d'être rassemblés. Amen.
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 Je vais vous emmener un petit peu dans les chroniques. Des fois, je me demande à quoi sert ce livre. Entre guillemets, vous avez des noms qui s'égrènent. Mais qu'est-ce que ça peut apporter? Eh bien, vous allez voir. Alors, vous connaissez Samuel, je pense. Hein, et allons voir d'abord dans le premier livre de Samuel, chapitre 8, versets 1 à 5. Voilà. Samuel a eu des enfants. Il en a eu deux. Hein. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abija. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Voilà. Joël, ça veut dire « L'Éternel est le Dieu ». D'ailleurs, il y a un prophète qui s'appelle Joël. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là, mais manifestement, vu le comportement, on peut s'attendre à ce que ce ne soit pas lui, que ce soit un autre. Hein. De toute façon, les événements décrits dans le livre, il faut clairement penser que ce sont deux personnes différentes. Mais voilà, Samuel a donné un nom à son fils premier-né, l'Éternel est Dieu. Parce que l'Éternel était vraiment au centre de sa vie. Et on voit que ce fils a contribué, a servi de prétexte en fait, pour que le peuple d'Israël réclame un roi, ce qui n'était pas... Et donc Dieu explique dans la suite du passage que c'était qu'ils étaient tout simplement en révolte contre Dieu. Donc ceci c'était juste un prétexte, même si c'était un très bon prétexte bien sûr. Et ce fils Joël a eu un enfant que vous connaissez peut-être. Et donc ça c'est dans 1 Chronique chapitre 6 verset 33. Voici ceux qui officiaient avec leur fils, donc c'est ceux qui officiaient avec, dans le temple du temps de David, d'entre les fils des Kéatites. Kéatites, c'était une des trois classes des Lévites. Donc, dans la tribu de Lévi, il y avait ceux qui étaient issus de Gershom, de Merari et, de Kéat, voilà, donc les Kéatites. Et donc il y avait Éman, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel. Vous allez me dire, mais c'est peut-être un autre Joël et un peut-être Samuel. Ben non, parce que si vous allez, je crois qu'un chapitre avant, on fait toute la généalogie, donc on voit même que c'est fils d'Elkana, hein, le père de... Et puis on remonte, donc il n'y a pas de doute possible. Cet Éman, c'était bien le petit-fils de Samuel. Voilà. Et donc Éman, il a été... Éman, ça veut dire quoi? Ça veut dire fidèle. C'est un peu étonnant hein, d'un père qui était cupide, hein, qu'il ait appelé son fils Éman. Mais voilà, c'était justement ce que n'était pas son père. Probablement qu'il y a eu des changements dans sa vie. Alors, on peut se poser la question, le psaume 88, c'est aussi écrit par un certain Éman. Mais là, il y a des doutes. Est-ce que c'est... celui-là ou un autre qui est évoqué en toujours dans la chronique chapitre 2 verset 6. Voilà, c'est un peu bizarre parce que ce Éman-ci faisait partie des fils de Corée, hein, Elkana et Joël, Samuel faisaient partie des fils de Corée, et donc le psaume 88 c'est des fils de Corée, mais il y a aussi un Éman qui serait Ezrachit, donc fils de Zérak, et ici il n'y a pas de Zérak dans la généalogie d'Éman. Voilà, en tout cas il y a un doute. Peut-être qu'il faut comprendre Ezrachit, au psaume 88, un peu autrement, tout comme Ethan, qui est le psaume 89. Et donc, cet Éman était au service de Dieu. Nous allons voir ça au au chapitre 25 des Chroniques. Et Dieu, donc, il était au service de Dieu, c'est dit au premier verset d'abord, hein, je vous lis le premier verset. Hein. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaph, d'Eman et de Yedutun. Voilà, donc les psaumes d'Azaph, il y en a tout plein, hein, voilà. Il y a un psaume d'Eman, et puis Yedutun, je pense, il est aussi mentionné dans les psaumes de mémoire, je n'ai pas été vérifié. Voilà, il prophétisait en s'accompagnant de la harpe, du luth, des cymbales, et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Et puis il y en a toute une flopée, hein. Et versets 4 à 5. D'Eman, il y avait des fils. Hein. Alors, Bukija, Matania, Uziel, Shebuel, Jérimoth, Anania, Anani, Elatia, Guidati, Romani, Ezer, Yosh, Bekasha, Maloti, Otir, Mikaziot. Makaziot, oui. Tous fils d'Eman, qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance, Dieu avait donné à Eman 14 fils et 3 filles. Voilà, il n'a pas chômé, comme on dit. Hein? Donc, il c'était un voyant, Eman, hein, c'était dit au verset 5, pour révéler les paroles de Dieu et exalter sa puissance. Voilà. À la fois prophète, hein, quelque part, pour révéler ce que Dieu avait à dire, et pour exalter la puissance, hein, tous les psaumes qu'il servait à chanter.
Voyant pas dans le même sens que ce que ça veut dire.
Oui, donc voyant dans le sens de Samuel, hein, son grand-père, hein, voyant Samuel le voyant, donc qui avait des révélations de Dieu. Et alors, donc nous avons déjà vu que bah, tous les noms peuvent avoir des significations. Hein. Samuel, c'est pas pour rien. Dieu a fait grâce, je crois, ou quelque chose comme ça, de mémoire. Joël, l'éternel est Dieu. Eman, fidèle. Et il y a quand même quelque chose que là, sur lequel je pense que je vais vous apprendre quelque chose. Les 9 derniers enfants d'Eman, hein, je vais vous lire la liste, donc vous commencez par, à partir de Anania, Anani, Elatia, Guidati, etc. Eh bien, en fait, vous les mettez les uns derrière les autres et ça vous fait la phrase d'un psaume. Ah oui. Et je vous le traduis. Hein. Fais-moi grâce, ô Éternel, fais-moi grâce, tu es mon Dieu. J'ai rendu grand et élevé le secours pour celui qui est assis dans la détresse. J'ai abondamment accompli les visions. Voilà. Donc, moi, quand j'ai appelé mes enfants, j'ai fait attention à la signification des noms que je leur donnais. Voilà. Mais Eman, lui, il a poussé les choses beaucoup plus loin. Il a fait en sorte que les noms, prénoms de ses 9 derniers enfants fassent un psaume à la gloire de l'Éternel. Voilà. Et quand on dit pour révéler les paroles de Dieu et élever sa puissance, il l'a fait à ce point-là. Voilà.
Répète un peu la phrase.
Donc, la grâce, la phrase, fais-moi grâce, ô Éternel, fais-moi grâce, tu es mon Dieu. Ça, c'est plutôt le Eman qui parle. Et puis, derrière la réponse de Dieu, j'ai rendu grand et élevé le secours pour celui qui est assis dans la détresse, j'ai abondamment accompli les visions. Et donc j'ai choisi pour aujourd'hui on va déjà chanter donc dans à toi la gloire, c'est le 200, dans VS c'est le 23 que la grâce. Et alors j'ai trouvé un deuxième couplet à ce chant, donc qui se trouve dans le recueil Donnez-lui gloire, voilà. Donc je vous le dis, hein, que le maître te garde toujours dans l'attente de ton retour, mets ta main dans sa main tout le long du chemin, vas en paix dans la joie, dans l'amour. Et donc on va chanter les deux couplets.
Tu peux le chanter toi le deuxième.
Fais-moi grâce, ô Éternel, fais-moi grâce, tu es mon Dieu. J'ai rendu grand et élevé le secours pour celui qui est assis dans la détresse. J'ai abondamment accompli les visions. Je vais vous lire à présent trois psaumes où chaque fois, il est dit, il y a les mêmes pensées que ces mots-là. D'ailleurs, il est répété dedans, tu es mon Dieu, comme le disait Eman à travers les prénoms de ses fils. Je commence par le psaume 31, nous prendrons un chant, et puis nous ferons deux autres psaumes. Au chef des chantres, psaume de David. Donc ce sont trois psaumes de David, tous composés à cette même époque, cette époque d'Eman. Donc entre David et Eman, et tous ses fils qui ont été mis en place par David comme chantre dans ce temple, il y avait vraiment une unité de pensée, puisqu'on voit que ce qui animait Eman animait également David. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi, ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. À nouveau. Donc c'est « J'ai rendu grand et élevé le secours pour celui qui est assis dans la détresse ». Donc chaque fois, il y a une partie où l'auteur expose sa détresse. « Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Fais-moi grâce, fais-moi grâce. » Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin, ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes ennemis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie au Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Comme Eman disait, fais-moi grâce, Éternel, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de tes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce, fais-moi grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent au silence du séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Ô combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Je vous rappelle, j'ai abondamment accompli les visions, des belles promesses qui nous attendent. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé là de ton regard. Mais j'ai entendu la voix de mes supplications. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Belle invitation pour nous, bien sûr. Et donc, il parle de rocher, donc je crois que c'est au début, c'est verset 88, car tu es mon rocher, tu es ma forteresse. Et donc, nous allons prendre le chant suivant qui est relié à cela, tu es mon rocher. C'est le 101 dans Victoire au Seigneur.
Je m'appuyais, c'est ta seule génie.
regarder maintenant le psaume 63, où il y a également cette affirmation, hein, « Tu es mon Dieu ». Et donc je vous rappelle, je vous remets dans la tête cette signification, « Fais-moi grâce, ô Éternel, fais-moi grâce, tu es mon Dieu. J'ai rendu grand et élevé le secours pour celui qui est assis dans la détresse. J'ai abondamment accompli les visions. » C'est toujours un psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. » Lorsque je pense à toi, sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, car tu es mon secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. N'oubliez pas, il était dans le désert de Juda. Il avait bien des difficultés, poursuivi par Saül. Eh bien, Dieu venait. Il a rendu grand et élevé le secours pour celui qui est assis dans la détresse. Et d'ailleurs, c'est le verset 8. Hein. Car tu es mon secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite, pardon, me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Fais-moi grâce, ô Éternel, fais-moi grâce. Tu es mon Dieu, j'ai rendu grand et élevé le secours. N'est-ce pas ce que David vient de faire aussi? Mais c'est ce que Dieu faisait. Pour celui qui est assis dans la détresse, j'ai abondamment accompli les visions. Issu de ce psaume, donc nous allons prendre le chant 216 dans Victoire au Seigneur, intitulé Carte à bonté, inspiré du verset 4. Carte à bonté vaut mieux que la vie. Psaume le 143 qui utilise également cette expression « Tu es mon Dieu ». Et donc c'est toujours un psaume de David. Verset 1. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Il le savait bien, avec Bercheba notamment. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Hein? Là, n'oubliez pas ce que Eman disait. Hein? J'ai rendu grand et élevé le secours pour celui qui est assis dans la détresse. J'ai abondamment accompli les visions. Et donc ici, David réfléchit sur ce que Dieu accomplit. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume, ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Nous avons pris ce chant pour commencer, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Et je vous rappelle donc cette parole. Fais-moi grâce, ô Éternel, fais-moi grâce, tu es mon Dieu. J'ai rendu grand et élevé le secours pour celui qui est assis dans la détresse. J'ai abondamment accompli les visions. Je pense que cette pensée d'Eman se retrouve dans ces trois psaumes que je vous ai lus, dont cette parole texto, tu es mon Dieu. Donc ici, le psaume nous incitait à nous laisser enseigner. C'était au verset 10, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » Et c'est le thème du chant suivant, « À toi la gloire », le 206, « Enseigne-moi, Seigneur. »
Chers amis, C'est une coïncidence qui n'a pas été dirigée, on ne s'est pas concerté. Vincent était dans le même livre tout à l'heure que là où je vais commencer. C'est très, très étonnant, mais c'est comme ça. J'ai souvent des sujets de prédication et je me demande parfois, mais quoi, que dois-je faire, Seigneur ? Et plusieurs fois dans la semaine, le Seigneur me conseillait de prendre le livre des rois, des chroniques, etc. C'est assez étonnant. Vous avez le livre de Samuel, le livre des rois, le livre des chroniques. Si vous voulez lire les six livres, il faut être très motivé. Ça reparle tout le temps des rois, mais avec des nuances, des événements différents. Mais en tout cas, lire Samuel, les deux livres de Samuel, les deux livres des rois et les deux livres des chroniques, il faut une très grande persévérance. C'est rare que les chrétiens s'attellent à cela. Surtout que dans ce cas-là, il faut prendre une chronologie biblique et il faut prendre des notes pour s'y retrouver, pour comparer. Sinon, au fur et à mesure qu'on avance, on croit retenir, c'est pas possible. Et donc, moi j'ai déjà fait ça en notant et tout, en ayant une chronologie de M. Racine à Paris, c'est très bien. Mais j'ai choisi de prendre le livre des rois, parce que parfois il faut aller dans le livre de Samuel, parfois dans le livre des chroniques. Et voilà. Et le livre des rois sera le guide de plusieurs prédications du dimanche. Nous allons dans le livre, premier livre des rois, au chapitre 1. La lecture de tout ce livre demande beaucoup de prudence, beaucoup de réflexion, mais j'en vois l'intérêt. Après, le Seigneur me conduisait à le faire, mais je vois l'intérêt après. Je vois ce qu'il y a derrière pour nous aujourd'hui, ça c'est clair. Mais c'était pas quand j'ai compris, quand j'ai accepté ce que le Seigneur m'a demandé, je ne savais pas. Le roi David était vieux, premier livre des rois, chapitre 1, verset 1. Le roi David était vieux, avancé en âge, on le couvrait de vêtements, il ne pouvait se réchauffer. Alors on appelle ça aujourd'hui de l'hypothermie, hein. Peut-être de l'hypoglycémie en même temps. Ses serviteurs lui dirent qu'on en cherche pour monseigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans
son
sein. Dans ton sein. Et monseigneur le roi se réchauffera. On chercha tout, dans tout le territoire d'Israël une belle jeune fille et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle, elle soigna le roi, le servit, mais le roi ne la connut pas. Mais tant mieux, hein. Je veux dire, il n'y a pas que ça. Hein? David est au déclin de sa vie physique, de sa vie psychique, mais je vais dire aussi de sa vie sexuelle, parce qu'il en a une très forte. Alors, cette jeune fille vierge, c'est quelqu'un de, à mon avis, quelqu'un de très intègre, de très bien, qui n'a pas choisi, hein. C'est un petit peu comme la reine Esther avec le grand roi de Perse, hein. Elle n'a rien choisi, hein. Il a bien fallu. Alors, cette jeune fille a une vertu à mon avis, c'est la simplicité de cœur en plus de la beauté. Alors, il se passe que David, dans sa situation de déclin, peut-être qui dure depuis des mois, a oublié une chose très importante. Il a quelque part faibli au niveau spirituellement. Et il a faibli tellement au niveau spirituellement que la situation se dégrade. Nous sommes parfois, nous chrétiens, à la fin de notre vie, en train de laisser un peu aller les choses et de ne pas se rendre compte de ce que le Seigneur nous demandait pour nos derniers jours et pour la suite des événements après nous. La chose la plus importante que Dieu avait demandé à David, la chose la plus vitale pour toute la suite des événements, c'est le roi, la royauté, la succession. Et Dieu avait été clair. Si nous allons dans 2 Samuel au chapitre 7, 2 Samuel chapitre 7, au verset 12 à 16. Regardez bien. « Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes, avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera pas de lui, comme j'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. » Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Donc la grâce de Dieu va rester dans la suite des siècles sur cette promesse, malgré l'infidélité et les péchés de David, de Salomon et de bien d'autres qui vont suivre. La maison et le règne seront toujours assurés, le trône sera toujours affermi. Il y a donc quelque chose de vital, de fondamental qui a été donné à David. Et qui va aboutir à Christ, le roi qui viendra sur le royaume, sur le trône de David, le trône à Jérusalem, c'est Christ. C'est essentiellement cela. Si nous prenons le psaume 89, prenez vite votre Bible, le psaume 89, c'est pas facile quand on a un chat qui s'est imposé sur les genoux. Je vois quelqu'un tout près de moi qui est dans le cas. Et le chat, lui, ne lit pas la Bible. Psaume 89, vous avez tout un rappel des promesses de Dieu faites à David. Regardez, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait mon alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours, j'établirai ton trône en perpétuité. Lisez évidemment d'autres versets de ce psaume, tout le psaume, c'est dimanche, prenez le temps. Vous allez voir que cette promesse faite à David est quand même quelque chose de monumental. Le verset 30, je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. N'est-ce pas? Le verset 36, j'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David. Sa postérité subsistera toujours, son trône sera comme moi, devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée. C'est pas tous les jours que Dieu s'engage dans des paroles pareilles. Il s'est engagé vis-à-vis de David, et David, durant sa vieillesse, quelque part, tout s'est dilué. C'est un peu nous, hein, ça. On a parfois c'est incroyable. Comment on peut devenir superficiel en ayant pourtant entendu les choses de Dieu et fait des expériences profondes de Dieu. Mais là, c'est fondamental parce que ça concerne la venue de Christ au bout de la lignée des rois. Donc David, au déclin, a perdu sa vision spirituelle. Et on s'occupe de lui un petit peu comme un enfant, un petit nounours, et tout d'un coup, il faut un événement pour le réveiller. L'événement qui va le réveiller, c'est qu'un de ses fils, fils de Haggith, une de ses femmes, il a eu plusieurs femmes, Haggith, c'est un fils qui s'appelle Adonijah. Alors, je retourne dans le livre des rois, au chapitre 1, vous voulez bien avec vous, premier livre des rois, chapitre 1, verset 5. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. C'est pas compliqué. David est complètement sénile, je veux dire, et un des fils en profite. Hein. C'est pas rare. Hein. Son père ne lui avait pas, de sa vie, fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Donc c'était un enfant congratulé, un enfant vu positivement. Un enfant, comme on dirait, il n'y a jamais eu de problème avec lui. Adonisa était en outre très beau de figure et était né après Absalom. Sachant qu'il y a, bien qu'il y a déjà eu un problème avec Absalom. Absalom s'est aussi révolté. Absalom, si vous voulez, droit. Et là, les événements étaient très durs pour David. Absalom est mort. Maintenant, voilà qu'un autre fils s'y remet. Et vous voyez, chaque fois, comme pour Absalom, comme pour Adonija, David a eu une attitude assez complaisante, assez très favorable. Est-ce que ces deux fils-là n'ont pas manqué de discipline, de remontrance, de rigueur? Et je vais vous dire que il n'est pas facile de redresser un arbre qui a poussé penché. Quand on a des enfants, parfois, il y en a un, on l'a laissé un peu tout faire, on l'a laissé, on a été complaisant, où on, c'était une époque de la vie où tout était difficile, on ne pouvait pas faire très attention, et cet enfant a pris ses habitudes, et il est centré sur lui-même. C'est le problème de toute famille, généralement, ça se produit. Nous sommes des humains. Bon, pratiquement, ce Adonija va faire une grande fête, il va réunir plein de monde, mais il n'invita, au verset 10, point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon, ni son frère. Et évidemment, il n'a pas invité, au verset 8, Sadoc. Hein. Sadoc était un homme, mais véritablement attaché à la sainteté de Dieu. Hein. Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimaï, etc., ne furent point avec Adonija. Il y a donc une série de personnes qui ne sont pas là. Mais en attendant, le complot se resserre, s'affermit, et ça va coûter très cher à ce vieil homme qu'est David. Alors, au verset 11 et 12, intervient un homme qui a une vision prophétique et qui veille à l'exécution du futur d'Israël, qui est toujours là de la part de Dieu. C'est en cela qu'on voit, on peut les appeler des voyants, ils ont une vision spirituelle pour le futur d'Israël, même du monde. Ils ont une vision spirituelle donnée par Dieu. Et ils sont contraints de réagir. C'est ça le vrai voyant. C'est pas celui qui fait de l'occultisme, mais celui, Nabi, c'est celui qui est au service de la révélation divine. Alors, Nathan vient, et c'est un semeur d'alarme spirituelle. Il dit quelque chose de solennel à son roi. D'abord à la maman, Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, « N'as-tu pas appris qu'Adonija, fils de Haggith, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache ? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante ? Salomon, ton fils, régnera après moi et s'assiera sur mon trône. Pourquoi donc Adonija règne-t-il ? Voilà. Nathan a l'art de mettre les pieds dans les plats, dans le plat, dans la porcelaine, et il ne va pas hésiter, il ne va pas hésiter à envoyer Bathsheba, qui est bien sûr alarmée, qui se rend compte du drame qui l'attend, et ensuite Nathan va être en présence du roi. Verset 23, en l'annonçant au roi, en disant « Voici Nathan le prophète ». Il entra en présence du roi, se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Nathan dit au roi, mon seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonija régnera après moi et s'assiera sur mon trône. Là, il le provoque là. Hein. Ça, c'est l'injection d'adrénaline. Hein. Là, il le fait bondir sur le lit. Hein. Ça, c'est dur, mais c'est comme ça avec Nathan. Et Gad aussi. C'est comme ça avec tous les prophètes. Et bien, alors il explique. Hein. Alors, David, bien sûr, David ne peut pas en rester là. Et au verset 26, le roi David répondit « Appelez-moi Bathsheba », elle entra et se présenta devant le roi. Le roi jura et dit « L'Éternel qui m'a délivré toutes les détresses est vivant ». Alors là, là vraiment on retrouve, on ne trouve pas un David sénile, décadent, on trouve un David de la foi, qui connaît Dieu, qui est vivant, qui est puissant, qui intervient. Et puisque Dieu a dit telle et telle chose, Dieu les fera. Donc lui aussi doit se soumettre Et doit entrer dans cette démarche de foi que Nathan vient de lui rappeler. Alors, je voudrais vous dire une chose. Combien d'entre nous sont endormis? Combien de nous écoutent leur faiblesse? Combien de nous cherchent des cadeaux qui les endorment? Ici, c'est une jeune fille. Mais des cadeaux. Une belle maison, une belle pelouse, une belle voiture, etc. Mon fils a un diplôme, etc., etc. Tous les cadeaux peuvent nous endormir et nous rendre décadents spirituellement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons une vigilance spirituelle à entretenir. Et il faut, puisque apparemment il n'y a plus de prophètes comme Gath et Nathan, il faut être entre chrétiens, prophètes de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut oser parler de la part de Dieu à nos frères et nos sœurs, non pas toujours pour leur plaire, non pas toujours pour les frotter dans le sens du poil, mais il faut aller vers les frères et les sœurs avec une pensée de Dieu, après avoir prié. Il faut avoir une vie spirituelle pour aller vers les frères spirituels. Nous sommes co-responsables de notre vie de prêtre et de prophète et de roi dans le royaume de Dieu. Co-responsables. Quand un s'endort, l'autre doit le réveiller. Et quand c'est toute une église qui s'endort, eh bien il faut que quelqu'un passe dans l'église et la réveille. Ou qu'il y a un énorme problème pour la réveiller. Ou que l'église ferme. Tout cela, c'est clair. Nous avons ici un exemple flagrant d'un réveil pour David. Très puissant, très fort. Grâce à cette déférence, grâce à ce respect que Nathan a pour Dieu et pour David, le roi. Nathan a autorité, évidemment. Personne ne va contester ce qu'il a dit. Alors le roi, au verset 29, jura et dit « L'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant, ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant « Salomon, ton fils, règnera après moi, il s'assiera sur mon trône à ma place, ainsi ferai-je aujourd'hui. » Tac. Qu'est-ce qui se passe? Après avoir s'être encroûté, endormi peut-être des mois, ou peut-être 2-3 ans, je ne sais pas quoi, David reprend le gouvernail. Dans nos familles, est-ce que le papa prend le gouvernail spirituel ou est-ce qu'il s'endort? S'il s'endort, est-ce que la femme prie et va aller le réveiller spirituellement en lui disant « Mais tu sais, Jean, il est temps que tu réagisses, tu ne vois pas ce qui t'arrive, qui va arriver, etc. » Il y a... Donc, si vous voulez, David va agir. Et c'est clair, au verset 30, il prend la ferme décision d'installer Salomon sur le trône. Et donc, le roi David, au verset 32, « Appelez-moi le sacrificateur Tsadok », c'était véritablement un grand homme de confiance. Hein. Vous savez que, par exemple, à l'époque de Jésus, les prêtres auraient dû être descendants de Tsadok, le seul légitime, d'après David, hein, le seul légitime. Mais Hérode et l'Empire romain ont mis des autres... Les descendants de Tsadok n'ont pas été prêtres. Quand Jésus rencontrait les prêtres de l'époque, ce n'étaient pas des prêtres légitimes. Et pratiquement, c'est pour ça qu'ils les appelaient sépulcres blanchis, vipères, etc. Ils prenaient la place qui ne leur revenait pas, que Dieu ne voulait pas. Alors, ici, Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule. Hein, rappelez-vous que Jésus est rentré à Jérusalem sur eux. Hein? Alors, et faites-le descendre à Guillon. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan, le prophète, loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz « Vive le roi Salomon ». Lisez le reste du chapitre 1, c'est adorable. La décision est prise et l'exécution se fait tout de suite. Parce qu'il y a urgence, oui, il y a urgence. D'autre part, il y a l'onction. Alors, l'onction, c'est pas David, c'est pas Tsadok, c'est pas Nathan, c'est Dieu qui oint le roi par les mains de Tsadok et de Nathan. L'onction, c'est la désignation et la consécration d'une personne à un ministère pour le peuple, celui de roi. Alors, évidemment, où était Salomon au moment où c'est arrivé, hein? Où est-ce qu'on a été le chercher, hein? Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Il n'avait certainement pas prié, il n'avait certainement pas... Il ne s'attendait pas à l'événement. Bon, évidemment, toutes ces choses-là montrent que parfois, nous allons vite en affaires et que l'urgence est là, mais est-ce qu'on a pris soin d'être prêt? Prêt pour un ministère? Prêt pour un rôle que Dieu veut nous donner? Ou est-ce qu'on veut l'improviser et le bâcler? Alors, l'approbation du peuple est donnée, l'onction c'était au verset 39, au verset 40 c'est l'approbation du peuple, mais je vous le dis, faites attention, la négligence et le manque de vigilance dans la conduite des familles, dans la conduite des églises, et peuvent amener un désordre meurtrier. Oui. Et si quelqu'un prophétise, si quelqu'un prend la parole au nom de Dieu pour réveiller, merci mon Dieu, mais si personne ne prend, n'a ce courage, n'a pris dans la prière, l'adoration, l'intercession, conseil auprès de Dieu pour parler, eh bien l'Église va se mourir. Les événements ne peuvent pas être conduits comme ça, par la chair, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'onction est très importante. Eh bien, nous, chrétiens, aujourd'hui, dans nos églises, sommes-nous prêts pour le roi qui va arriver? On a l'impression que Jésus n'est roi nulle part, hein? Comprenons bien. Nous avons des conseils d'église, des règlements d'ordre intérieur, nous avons des pasteurs, ou nous n'en avons pas, nous avons des anciens, ça fonctionne. Et tout cela nous donne l'impression qu'on vit. Mais est-ce que nous vivons dans l'attente du roi désigné? Le roi désigné, déjà par Nathan, promis à David et à Salomon. Est-ce que nous sommes dans l'attente du roi Messie, Jésus de Nazareth, ressuscité notre Seigneur? Et est-ce que nous avons cette attitude qui convient, cette vie qui convient pour l'accueillir? Ou est-ce que nous allons être pris au dépourvu, comme beaucoup de personnes dans le premier livre des rois? Toujours est-il que Adonija a échoué, et tous ses partisans s'enfuient, et cela c'est du verset 49 à 53. Regardons bien ce qui s'est passé. Tous les conviés d'Adonija furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Adonija eut peur de Salomon, il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. Donc, c'est quelque chose à ne pas faire, c'est interdit normalement. On vint dire à Salomon, voici Adonija a peur du roi Salomon. Il a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Salomon dit, s'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se montre en lui de la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon envoya des hommes qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit, va dans ta maison. C'est l'expression même du lâche, hein. Bon, voilà. De l'homme tordu, qui n'aime pas Salomon, qui ne l'aimera jamais. Qui n'aime pas Dieu. Alors, évidemment, il va falloir surveiller ce Adonija du coin de l'œil. Et vous retrouvez plus tard, c'est Adonija qui n'a pas d'amour réellement, qui est rusé. Vous retrouvez ça au chapitre 2, verset 13. Adonija, fils d'Agit, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit, viens-tu dans des intentions paisibles? Eh oui, hein. Il a l'air de donner une bonne impression, donc elle accepte de discuter avec. Il répondit oui. Et il ajouta, donc, c'est un hypocrite, hein, un rusé, un homme double. Et il ajouta, j'ai un mot à te dire. Elle dit, parle. Elle dit, tu sais que la royauté m'appartenait, donc il n'a pas lâché le morceau, hein. Vous comprenez qu'il n'a pas désarmé. La royauté m'appartenait. Ah, les amis, n'avez-vous jamais rencontré des gens comme ça? Même dans les chrétiens? C'est horrible. Et que tout Israël portait ce regard sur moi pour me faire régner. Monsieur Je. Hein? Monsieur Je. Mais la royauté a tourné. Elle était chez mon frère. Elle a tourné, c'est comme une jurette au-dessus d'une église. Il y a le vent, les circonstances ont fait que ça a tourné. Et puis il dit, l'Éternel le lui a donné. Tout compte fait, c'est l'Éternel le fautif. C'est Dieu le fautif. Si je ne suis pas roi. Vous vous rendez compte? Derrière cette démarche, vous devez considérer que Satan parle. Satan cherche toujours à être maître et roi. Satan fait use de ruse comme Adoniga vis-à-vis de la maman de Salomon. C'est la méthode de Satan. Et c'est l'état d'esprit de Satan. Maintenant, je te demande une chose, ne me la refuse pas. Elle lui répondit, parle, et il dit, je te prie au roi Salomon, car il ne te la refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag la Sunamite. Donc la jeune fille vierge qui était auprès de David, hein, et qui était, tout compte fait, du fait de ce qui s'était passé, elle était femme du roi. Elle était femme du roi. Donc elle était quelqu'un qui n'était plus, n'appartenait pas à quelqu'un d'autre. Mais regardez, voyons bien que si il obtient cette femme, il s'introduit de manière rusée, comme le serpent, dans la royauté. C'est cela qu'il veut. Maintenant, je te demande une chose, ne me refuse pas. Il lui répondit, parle et dit, je te prie, au roi seulement, car il ne te refusera pas qu'il me donne pour femme Abishag la Sunamite. Bathsheba dit, bien, je parlerai pour toi au roi. Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonija. Alors ça va barder là. Là ça va barder. Et clairement, ça n'ira pas comme il a voulu. Au verset 25, le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui le frappa et Adonija mourut. Écoutez, cet homme, c'est du poison, Adonija. Hein. Et il utilise la ruse. Chers amis, il y a parfois, à l'entour du pasteur ou d'un ancien qui fait bien son travail dans l'église, il y a des gens avec cet esprit-là, qui envient la place du pasteur ou de l'ancien. Mais, en fait, ils sont censés sur eux-mêmes. C'est des sociopathes. C'est des gens que, si l'Église ne se rend pas compte et les prend comme responsables, c'est fini pour l'Église. Tout sera au service de cet homme. Même l'usage de la Bible, même les prédications, finiront pour attacher les gens à la personne, mais pas à Dieu. Et chers amis, dans tous ces récits-là, je voudrais que Salomon a eu du discernement. Il fallait qu'Adonija sorte de la scène pour ne pas empoisonner le futur du royaume. Vous pourriez vous demander si David n'est pas trop sanguinaire, trop méchant. Ah, les débuts de Salomon vont être assez durs. Nous, les sentimentaux, nous, les humanistes, nous, les Européens, on ne voit pas les choses parfois comme la Bible les voit. Alors, regardons bien dans chapitre 2. Chapitre 2, versets 1 à 4. David approchait du moment de sa mort, il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Donc voici, les quatre premiers versets sont quelque chose de très important. Je dirais que ce sont des paroles sacrées. Mais il dit que c'est écrit dans la loi de Moïse. Eh bien, nous allons aller voir dans la loi de Moïse, Deutéronome chapitre 17. Deutéronome 17, 14. Vous savez, là on voit que David est un homme de Dieu. Parce que l'autorité de la parole de Dieu existe pour lui. Comme l'autorité de la prophétie de Nathan a existé pour lui, il a réagi. Je pense que l'homme, selon le cœur de Dieu, n'est jamais parfait. Il peut même dégringoler tout bien bas. Mais toujours, il se fait réveiller par la parole prophétique, toujours par la parole dans le livre. L'homme de Dieu, et vous, chrétiens, êtes-vous femme et homme de Dieu? Évidemment, si vous écoutez la parole de Dieu, si vous l'aimez, et que vous prenez du temps à la lire et à la mettre en pratique. Alors, Deutéronome 17, verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure, que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent », tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qui n'ait pas un grand nombre de chevaux. Malheureusement, Salomon va s'y mettre à fond la caisse. Malheureusement. Mais qui n'ait pas un grand nombre de chevaux. Pourquoi ? Pour se confier en puissance militaire. Les chevaux, c'est comme l'Égypte, hein, la puissance, les chars, les chevaux. Et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Et évidemment, Salomon va faire ça aussi. C'était trop là. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs des Lévites. Il va falloir qu'il prenne la Torah et qu'il la recopie pour lui. Imaginez, là c'est une soumission profonde. Hein. J'ai eu dans la semaine la visite d'un ancien taulard, un ancien prisonnier, un homme que j'ai fréquenté en prison plusieurs mois, et je lui avais donné un petit évangile de bleu, des Gédéons, avec les psaumes. Et il ne s'était plus à recopier tout à la main. Il m'avait demandé des feuilles et il copiait tout. C'est toujours resté dans son cœur. J'espère toujours le salut pour cet homme, parce qu'il est venu me revoir, il n'est pas encore converti. Et comme il me restait une dernière petite Bible, Gédéon, bleu, Nouveau Testament et psaumes, je lui ai donné. Il était profondément touché. Tu as copié cela. Maintenant, regarde pour ton cœur, ta vie, ton âme. Parce que tu as pris des années, tu as vieilli. Alors, regardez bien, au verset 19, il devra l'avoir avec lui et lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne se lève point au-dessus de ses frères. Regardez bien, mes amis, ce qui est mis là. Hein. Afin que son cœur ne se lève point au-dessus de ses frères. Est-ce que ce n'est pas ça que Jésus a demandé à tous ses disciples? De s'aimer les uns les autres comme il les a aimés. Et le lavement des pieds. Le vrai roi, c'est Jésus. Évidemment, parce que Salomon ne va pas l'accomplir. Il aura tout entendu, mais il ne va pas l'accomplir. Pourtant, il va aimer Dieu. C'est drôle. Aimer Dieu et ne pas accomplir sa parole, pas obéir à sa parole. Est-ce que nos églises n'ont pas un gros problème, de la même façon que Salomon? Avec l'or, la richesse, avec les femmes, l'impureté, hein, ou les hommes, hein, et bien sûr, avec une profonde négligence par rapport à la parole de Dieu. Là, il lui est demandé de la lire et de l'écrire tous les jours. Alors, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Voici donc la consigne que a donnée David, c'est un roi selon les Écritures, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ensuite, tout le chapitre 2, c'est l'exécution de purge que David demande. L'exécution de gens dangereux, de règlement de compte, afin que tous ces gens ne viennent pas saboter l'autorité de Salomon et se faire valoir, d'une manière ou l'autre, de manière rusée comme Adonijah. Alors, vous pouvez lire tout le chapitre, le restant du chapitre 2, c'est assez dur, moi j'ai jamais trop bien compris, mais je comprends maintenant qu'on ne peut pas mettre une bonne soupe et du poison ensemble. Au point de départ, David voulait que Salomon ait la parole de Dieu selon l'écriture de Deutéronome 17, 14, 20. Et tout le reste devait être... Salomon était très clair. Peut-être trop clair pour vous, pour moi. Est-ce que quand la parole de Dieu s'adresse à nous, elle ne nous dérange pas au point qu'on dise qu'elle est trop claire? Chers amis, à chacun de nous de répondre à cette question. À chacun de nous de répondre. Si les exigences divines sont celles qui nous plaisent, ou si on veut les limer, les éroder, les aménager, et se croire chrétien. Je pense que de toute manière, les événements qui se sont passés dans ce chapitre 2 montrent bien que Dieu ne veut pas un royaume pourri et qui commence dans la pourriture avec des gens pervers. Alors, nous aborderons, bien sûr, dimanche prochain, le Salomon du mariage, des femmes, de la richesse, mais aussi des visions, des grandes richesses que Dieu a données. Et le chapitre 4. Chers amis, que Dieu vous bénisse, que la parole de Dieu soit vivante, comme une épée transperce dans la nature de nos os, la moelle et les os, comme dit l'Épître aux Hébreux, et que ce soit une épée rouillée, tordue, qui ne nous fait rien. Que la parole de Dieu fasse son effet dans nos vies, afin que Dieu vivant intervienne dans nos vies, et que nous soyons dans la volonté de Dieu, pour être prêts dans le royaume du roi qui va venir. Ce roi promis à David et à Salomon, ce roi qui va venir. Regarde comment aujourd'hui, comment nous sommes vis-à-vis de sa parole. Alléluia, bon dimanche.
Amen.